Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Jean-Pierre Diques, assisté de Dominique Tassot et de Bernadette. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 5 mai 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonjour chers auditeurs, vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie par Jean-Pierre Diques, assisté de Dominique Tassot et de Bernadette. Nous recevons aujourd'hui M. Maxence Écart pour son livre « La crise de l'autorité dans l'Église » ainsi que M. Laurent Glosy, écrivain et éditeur. Nous écouterons aussi Maître Jérôme Triomphe par téléphone pour des nouvelles de Vincent Lambert.
Alors chers amis, j'avais été littéralement atterré par la décision du Conseil d'État à propos de Vincent Lambert. Pour différentes raisons, mais la raison majeure, c'est que j'avais été, si vous voulez, dès le début impliqué dans cette affaire-là, puisque Madame Lambert m'avait téléphoné et elle m'a dit « voilà, on est en train de déshydrater mon fils, de le laisser mourir, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors je lui ai dit, bien sûr, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a, et on m'a dit, il est en état possi-relationnel. Je lui ai dit, madame, s'il est dans un état possi-relationnel, comme on dit, eh bien ça veut dire qu'il n'est pas en fin de vie. Le lendemain, elle me téléphone, et elle me dit, bah, écoutez docteur, est-ce que vous connaissez un avocat sur Paris? Ben oui, je lui ai dit, je connais Jérôme Triomphe. Et effectivement, Madame Lambert et son mari se sont adressés à Jérôme Triomphe. Alors je ne sais pas, est-ce que nous l'avons? Eh bien, on va le prendre tout de suite. Je peux lui parler?
Oui. Je suis là.
Oui, bonjour Jérôme, oui.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci de consacrer un peu de ton temps, surtout que c'est dimanche. Pardon, de votre temps, parce qu'on n'a pas le droit de se tutoyer, excusez-moi.
Oui, mais ne faisons pas semblant.
Bon, alors Jérôme, j'étais en train d'expliquer que la décision du Conseil d'État était atterrante parce qu'elle s'est terminée par ces mots, à savoir que Vincent Lambert n'était plus utile à la société. Et je me suis dit, mais c'est effarant, parce que c'est l'ouverture...
Ils ne disent pas ça comme ça, mais enfin, en tout cas, c'est évidemment le sens qu'on peut lui donner. Je vais juste vous donner quand même une anecdote. Le 29 mars dernier, lorsque nous étions au Conseil d'État, dans cette chambre solennelle, avec des dorures partout, le président Jean-Denis Combrexel, nouveau président de la section du contentieux qui a remplacé Bernard Stirn, a terminé par ces mots, faisant écho aux accusations constantes de la grande presse bien pensante. Le Conseil d'État rendra la justice des hommes. Eh bien, un mois après, je dois vous dire que nous n'avons pas été déçus par la constance de la justice des hommes, parce qu'elle n'est pas bien glorieuse. La réalité de cette décision du Conseil d'État, c'est que dit-elle ? Elle dit d'abord, je sais qu'il y a Maxence Écart, que je salue autour de votre table, c'est un philosophe.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Maxence, bonjour à Laurent Glosy également. Et je sais que Maxence saura me contrôler, mais il y a des principes philosophiques quand même qui président à nos raisonnements intellectuels. Et que dit le Conseil d'État? Il dit, le simple fait d'être dans un état végétatif ou même d'absence totale de conscience ne justifie pas en tant que tel qu'on puisse arrêter un traitement entraînant la mort. Mais le principe d'après, il dit, mais on peut le faire quand même. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument surréaliste. Et comment peut-on le faire? En prenant en compte des éléments médicaux, mais également non médicaux, qu'on ne définit évidemment absolument pas, et on met absolument ce qu'on veut, on rend les décisions qu'on veut, et c'est exactement ce qu'a fait le Conseil d'État, qui nous a dit qu'elle rendrait la justice des hommes. La justice des hommes a été rendue, c'est une justice de mort. Je ne peux même pas dire une justice, parce que la justice, c'est une belle vertu. L'institution judiciaire a rendu une décision de mort, ce qui me fait dire que malheureusement nous avons affaire à des sépulcres non pas blanchis mais dorés à leur fin.
Alors voilà, alors moi j'en étais resté à ce niveau-là et j'en aurais presque pleuré en quelque sorte parce que en fait je m'étais toujours tenu en retrait dans la mesure où j'estimais que ce que m'avait dit Madame Lambert tenait du secret médical. Et c'est notre... mon confrère maintenant décédé, Luc Perrel, qui s'est occupé de cette affaire-là, mais évidemment, c'est maintenant dans mes mains que ça retombe. Alors, c'est avec...
Je fais une parenthèse.
Oui, je vous en prie, oui.
Pour te dire, Jean-Pierre, que j'aurais aimé que notre cher ami Luc Perrel soit ce jour autour de la table avec vous tous pour entendre la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, parce qu'il s'est tellement battu pour Vincent avec toi qu'il méritait d'entendre cette nouvelle, mais de là où il est, évidemment, il n'est peut-être pas étranger à cette bonne nouvelle.
Ah, ça, c'est pas impossible. J'ai un peu d'émotion dans la voix, mais...
Oui. Je referme la parenthèse.
Alors, voilà. Donc, moi, je veux dire, un peu triste, j'ai le plaisir de prendre contact avec toi. Et là, tu avais l'air joyeux. Je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Et tu me rappelles au téléphone et... tu me dis, ah ben non, il y a quelque chose de formidable qui vient de se passer.
Alors, je vais vous raconter la chose.
Tous les gens qui sont ici peuvent poser des questions. Hein. Je n'ai pas l'exclusivité du cas de, à la radio, du cas de Vincent Lambert. Hein.
Oui. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, le 29 mars, nous plaidons devant le Conseil d'État, qui annonce une décision. Nous étions le vendredi 29 mars, ils nous annoncent une décision 3 semaines plus tard. Je ne sais pas s'ils ont bien réfléchi à cela, parce que 3 semaines plus tard, c'était le vendredi saint. Évidemment, ça nous embêtait beaucoup d'avoir une décision du Conseil d'État le vendredi saint, parce qu'elle laissait préfigurer, évidemment,
la mort.
Une décision de mort. Nous aurions préféré une décision dans l'octave de Pâques. Il y a eu entre-temps l'incendie de Notre-Dame. Tout le monde a pleuré sur Notre-Dame. L'incendie épouvantable de Notre-Dame, je sais que Maxence n'était pas loin, il n'en est pas à l'origine, mais pas loin de Notre-Dame.
J'habite à côté de Notre-Dame, effectivement.
Absolument.
Donc j'ai évacué mes enfants en pyjama face au brasier.
Et j'espère que tu as pu réintégrer les lieux.
Absolument, oui.
Bon, eh bien, c'est l'essentiel. L'incendie épouvantable et dramatique de Notre-Dame a eu au moins un mérite, c'est de rappeler à la France entière que nous étions alors en Semaine Sainte et que la semaine suivante était celle de Pâques. Et le Conseil d'État a dû en entendre parler de cette Semaine Sainte, puisqu'il s'est dit, vu que ce sont de dangereux intégristes, puisque c'est comme ça qu'on les présente dans la presse, on va quand même respecter cette Semaine Sainte entre tous. Et donc, ils ont différé le rendu de la décision de mort, puisque évidemment, il l'habille autrement, mais c'est une décision de mort, au mercredi de l'octave de Pâques. Et cette décision, qui aurait dû être une décision de vie, ben, finalement, a été une décision de mort. Nous avions, dès la veille, saisi la Cour européenne des droits de l'homme. avec la confiance que vous imaginez, puisque la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà statué le 5 juin 2015. Mais nous ne l'avions pas saisi sur le fond des griefs que nous avions soulevés à l'époque et sur lesquels elle nous avait déboutés. Nous l'avions saisi sur tout simplement le droit au procès équitable, le droit au recours effectif, en dénonçant les conditions lamentables et invraisemblables que j'écrirai un jour, dans lesquelles se sont déroulées à la fois l'expertise de Vincent, l'expertise médicale, et le jugement devant le tribunal. Songez simplement que dans le cadre de l'expertise médicale, le président du tribunal administratif est venu en personne à la réunion d'expertise, et toi, Jean-Pierre, qui a fait beaucoup d'expertises judiciaires, tu vas sauter au plafond, pour présider la réunion d'expertise en pratique, distribuer la parole aux uns, la refuser aux autres, c'est-à-dire nous et nos médecins, et nous interdire physiquement, matériellement, concrètement, de contester le protocole d'évaluation des experts qui ne connaissent pas la prise en charge au quotidien des patients en étape aussi relationnelle, il a interdit qu'on puisse contester leur protocole.
C'est invraisemblable, parce que ça ne correspond pas du tout à la manière de procéder en matière d'expertise.
Mais c'est une violation des principes les plus sacrés de notre procédure.
Tout à fait.
En pratique, il faut quand même le rappeler, un patient en état de conscience altérée est fluctuant. Et un patient fluctuant, il ne réagit pas sur commande. En claquant des doigts, quand on lui demande, il faut qu'il soit dans des conditions bienveillantes, favorables, il faut qu'il soit mis en confiance. On met en pratique 3 semaines à 1 mois pour essayer d'évaluer aussi bien que possible l'état de conscience réel d'un patient en état de conscience altéré. Par exemple, il y a une échelle d'évaluation que tu connais évidemment, la CRSR, qui permet d'évaluer l'état de conscience et la réactivité et les réactions d'un patient EVC-EPR. Les plus grands savants, les plus grands chercheurs, à commencer par Steven Lorès, le professeur Lorès du Coma Science Group de Liège, rappellent dans toutes les productions scientifiques que nous avons donné aux experts, que nous avons donné aux tribunaux, le fait que l'évaluation CRSR ne peut pas se faire une seule fois, elle doit se faire au minimum 5 fois sur 10 jours différents. Eh bien, les experts sont arrivés, ils ont fait l'évaluation CRSR à 3 une seule fois, on leur a dit c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça comme ça, ils ont dit c'est comme ça, c'est nous qui décidons, et le président a imposé que ce soit fait comme ça, sans permettre à nos médecins, qui sont les plus grands spécialistes des patients en état de conscience altérée, d'apporter la contradiction et de dire ce n'est pas comme ça qu'on peut faire. C'était des conditions invraisemblables. Nous avons récusé le président. Le président a fait déclarer notre accusation irrecevable. Nous avons demandé le renvoi devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime qui a été rejetée. Nous avons fait un recours et le tribunal s'est empressé de statuer sur l'affaire Vincent Lambert
à partir de ce premier document.
Avant qu'on nous réponde sur le fait de savoir si on devait le renvoyer devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime. C'est dans ces conditions lamentables que nous avons été jugés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et un jour, j'écrirai tout ce qu'il y a à écrire dessus et vous verrez, vous ne serez pas déçus du voyage, si j'ose dire, mais ce n'est pas le temps de le dire à l'antenne. Nous avons fait appel au Conseil d'État. C'est dans ces conditions qu'est intervenue cette nouvelle décision de mort qui consiste simplement à dire que à cause de son handicap et parce qu'il aurait prétendument voulu, Vincent Lambert doit mourir. Alors, traduction, ça s'appelle soit du suicide assisté, soit de l'euthanasie. C'est-à-dire la même chose, puisque qu'il meure, il faut arrêter de l'alimenter et de l'hydrater.
C'est la loi Leonetti.
La loi Leonetti-Claeys, dont on ne dira jamais la perfidie, dont on ne dira jamais assez la perfidie et l'abomination. Et comme ils se sont aperçus quand même que faire mourir de soif au-delà de la faim, c'était la souffrance la plus abominable qui soit donnée au corps humain, ils ont inventé la sédation profonde et continue jusqu'au décès qui vise en fait à, espère-t-on, essayer d'atténuer, de calmer ou d'annihiler les souffrances qu'ils auront eux-mêmes créées. C'est-à-dire qu'on est dans la version la plus terrible de la réalité. La médecine est là pour soulager des souffrances préexistantes, non pas pour soulager des souffrances qu'elle crée elle-même, évidemment, sauf évidemment si ces souffrances sont proportionnées. Ouvrir un homme en deux pour lui réparer un cœur défaillant, on crée une souffrance, mais c'est pour un plus grand bien. Et bien là, on crée des souffrances dans le but de faire mourir et on s'édate en espérant faire oublier ces souffrances. Voilà la réalité concrète de ce que dit le Conseil d'État. Il a dit qu'il aurait voulu ce qui est faux, ce qui est absolument improuvable, et quand bien même cela serait le cas, cela s'appelle de l'euthanasie pure et simple, c'est-à-dire l'intention de provoquer la mort en arrêtant un soin primaire qu'est l'alimentation et l'hydratation. Qu'avons-nous fait ? Nous sommes allés à la CEDH, je vous l'ai déjà dit, sur les fondements que je vous ai dit, qui n'étaient pas ceux de 2014-2015, à savoir la violation du droit au procès équitable, la violation du droit au recours effectif. Nous avons demandé des mesures provisoires. En une semaine, la CEDH nous a répondu. Alors là, les médias se sont jetés avec délectation sur cette nouvelle qui les a réjouis au plus haut point. Quand je parle des médias, vous aurez compris que c'est les médias mainstream, comme on ne dit pas à Radio Courtoisie. Et la CEDH nous a dit la chose suivante. Nous avons déjà tranché. Donc, en 2015, donc nous n'accorderons pas de mesures provisoires au bénéfice de M. Vincent Lambert. Ce qui consiste à dire quoi ? Ce qui consiste à dire que vu que nous avons décidé que Vincent devait mourir ou pouvait mourir légalement, nous n'avons pas à examiner la question de savoir si on lui a fait un procès équitable en 2019. C'est quelque chose de tout à fait terrifiant. Nous sommes dans une régression de civilisation et dans un retour à la barbarie, à la fois sur le plan évidemment ontologique, anthropologique, de défense de la vie, mais également sur le plan du droit fondamental et nécessaire au procès équitable, alors que l'un des grands principes qui irriguent le droit européen, c'est la justice doit non seulement être rendue, mais donner le sentiment à celui qui l'a subi, qu'elle a été effectivement rendue. Tout cela est balayé d'un revers de main, négligent, parce que, évidemment, c'est l'esprit mortifère qui règne. Les médias se réjouissaient. Simplement, je dois dire que, et même nos adversaires se réjouissaient, l'infâme Libération a osé titrer Vincent Lambert « Enfin la fin ». Avec un point d'interrogation. Ces gens-là n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils meurent au lieu de se dire que ce garçon qui n'a rien demandé à personne pourrait être pris en charge correctement et non pas enfermé à clé dans le sinistre couloir de la mort qui est devenu le CHU de Reims. Eh bien, je croyais pourtant qu'au bout de 6 ans, ils avaient appris à nous connaître.
Oui, et alors moi je me suis dit, notre ami, cette fois-ci, il n'y a plus rien à faire, quoi. En gros, je me dis, ça y est, le sort de Vincent Lambert est décidé, il n'y a plus moyen de... Alors je me suis dit, mais comment Jérôme va s'en sortir ?
Eh bien écoutez, nous avons saisi le CIDPH, le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui relève du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alors, évidemment, à l'ONU, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été rendues notamment par le Comité des droits de l'homme qui pouvaient être sujets à discussion. Mais nous avons saisi spécifiquement ce comité. C'est un comité qui a été créé dans le cadre de la Convention internationale de protection des droits des personnes handicapées, qui a été souscrite par la France, qui a été ratifiée par la France en 2010. Et au terme de cette convention, il y a ce comité international des droits des personnes handicapées qui siège à Genève, à l'ONU, et qui est chargé de faire respecter les termes de la convention auxquels la France doit se soumettre en application, en exécution de sa ratification.
Mais il fallait savoir que ça existait.
Oui, mais ça, c'est mon travail. Enfin, c'est notre travail. C'est notre travail à nous, les avocats, parce que nous sommes une équipe merveilleuse, avec des avocats merveilleux, fantastiques, avec qui nous travaillons main dans la main. Il n'y a pas l'ombre d'une dissension entre nous sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Nous avons une équipe merveilleuse également de médecins qui sont tous engagés pour Vincent. Les plus grands spécialistes par dizaines nous soutiennent. ils nous soutiennent publiquement énormément, et je dois dire que nous avons cette chance inouïe. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, nous avions décidé de saisir le CIDPH dès le 4 janvier 2018. Vous voyez que tout cela était déjà dans les tuyaux, et donc nous avons saisi le CIDPH en même temps que la Cour européenne, sur deux fondements complètement différents, et le CIDPH sur le fond, évidemment, de l'affaire, à savoir, est-ce qu'on a le droit de provoquer la mort d'un homme de faim et de soif, et est-ce qu'on a le droit de provoquer la mort d'un homme de faim et de soif au motif qu'il est handicapé. Alors, il faut savoir ce qu'est le CIDPH, c'est un comité qui regroupe un certain nombre de personnalités qui sont élues, et qui sont pour la plupart des personnes handicapées. Vous, Christophe, vous savez familialement, vous en parlez souvent, ce qu'est le handicap, et c'est quand on connaît le handicap, qu'on touche du doigt la maladie et le handicap, qu'on peut en parler le plus facilement, le plus sérieusement. Pas quand on est, comme certains, un juge bien portant et bien pensant, qui se projette et qui projette ses angoisses de bien portant et de bien pensant sur la situation de la personne handicapée. La présidente du CIDPH, par exemple, est une professeure de droit qui est née sans bras et qui travaille en fait avec ses pieds. Vous regardez sur Internet, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, et c'est une femme remarquable. Donc c'est un comité, j'allais dire, de spécialistes. Et c'est plus qu'un comité, c'est la seule instance internationale spécialisée dans la protection des droits des handicapés au niveau plus qu'international, c'est même pas au niveau européen, c'est au niveau mondial. Et nous les avons saisis dès le... évidemment, vous pensez bien que le...
Alors il faut se déplacer, comment ça se passe?
Non, alors c'est une procédure écrite, mais nous avions saisi le CIDPH, la requête était évidemment prête depuis plusieurs semaines, dès que le Conseil d'État a rendu son arrêt de mort. Nous l'avons saisi immédiatement, et le CIDPH s'est prononcé très rapidement, et 3 jours après le rejet de la CEDH d'accorder des mesures provisoires sans même regarder les griefs d'un procès lamentable qui a été fait à ce malheureux Vincent, le CIDPH, qui relève, encore une fois, du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, qui est donc qui n'est pas un comité théodule, comme je l'ai lu dans le propos de l'avocat François Lambert. Ce n'est pas un comité théodule, et c'est un comité qui a des pouvoirs évidemment essentiels, qui sont ceux de faire respecter la convention qu'a souscrite la France. Le CIDPH s'est prononcé vendredi dernier, nous étions le 3 mai, et nous a écrit à mon confrère et ami, frère d'armes, Jean Payot et moi-même, en nous indiquant que notre requête avait été enregistrée, ce qui est déjà la première étape, parce que nombre de requêtes évidemment sont rejetées. Notre requête non seulement était enregistrée, mais qu'elle avait été transmise au gouvernement français, qui par le biais du ministère des Affaires étrangères va devoir défendre sur notre requête, qui nous indique qu'il a été demandé à la France, en application de l'article 4 de la Convention et de l'article 64 du règlement, prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert continuent à lui être administrées le temps que notre requête soit examinée, ce qui prendra en pratique plusieurs années.
Alors,
mardi, certains se réjouissaient qu'on puisse, la semaine suivante, tuer Vincent, eh bien, j'allais dire qu'en quelque sorte, les compteurs ont été remis à zéro par cette décision très importante du Comité international pour la protection des droits des handicapés. Et je dois vous dire que c'est avec une grande confiance que nous attendons la décision qu'elle rendra, après les débats contradictoires que nous aurons devant elle, les échanges contradictoires, parce que, encore une fois, c'est la seule instance internationale spécialisée dans la protection des droits des personnes handicapées. Elle a déjà rendu des décisions très importantes et je pense qu'elle en rendra encore une au bénéfice non seulement de Vincent, évidemment c'est le premier dont les intérêts me sont confiés, mais au-delà de l'ensemble des personnes vulnérables sans défense sur lesquelles on veut s'acharner, qu'on veut faire disparaître. Pourquoi ? Parce qu'en réalité on porte un sens sur le jugement de leur vie et parce qu'en réalité elles n'ont plus d'utilité. Voilà la réalité.
Alors, question, est-ce que le processus de déshydratation avait commencé ou pas ?
Non. Non. Non, parce qu'évidemment, dès que nous avons appris la décision de mort du Conseil d'État du 24 mars 2019, ou devrais-je dire du mercredi de Pâques 2019, nous avons immédiatement écrit en lettres recommandées, mail, fax et tous les moyens que la technique met à notre disposition au docteur Vincent Sanchez, dont l'histoire retiendra le nom au même titre que le docteur Éric Carrigère, pour lui indiquer que nous saisissions immédiatement la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité international des droits des personnes handicapées contre la, évidemment, la décision qui lui était rendue, et que s'il ne respectait pas ses recours et qu'il mettait à exécution sa décision, nous engagerions immédiatement sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire. Il n'a pas bougé, il n'a rien fait, il a respecté l'existence de ses recours, et donc Vincent est toujours aujourd'hui dans la situation d'être alimenté, hydraté, de recevoir les soins de nursing qui sont dus à n'importe quel patient, évidemment. Pardon pour le mot anglais, c'est comme cela qu'on dit dans le milieu médical. Mais il est toujours enfermé à clé dans le couloir de la mort qui est devenu le CHU de Reims. Et aujourd'hui, évidemment, l'enjeu, c'est de l'arracher à cet enfer en attendant que le CIDPH dise le droit et rappelle que les personnes handicapées ont droit à notre considération, notre solidarité, notre soutien, parce que c'est à la capacité qu'une civilisation a de s'occuper des plus faibles et des plus vulnérables d'entre les siens qu'on reconnaît qu'une civilisation est civilisée, sinon c'est une civilisation barbare, ce dans quoi nous sommes en train de sombrer
malheureusement,
à cause d'une certaine médecine, d'une certaine justice. Et je l'ai déjà dit en 2014, mais je le redis aujourd'hui, nous voyons s'avancer cette sombre barbarie qui avance en blouse blanche et en robe noire. Tout cela, nous savons d'où ça vient, évidemment. Il y a eu l'avortement en 75. Aujourd'hui, on tue les personnes handicapées. C'est une suite, évidemment, parfaitement logique.
800 en Belgique.
Et demain, ce sera qui ? Ce sera évidemment les mineurs. C'est déjà le cas en France. Je vais vous dire un mot juste là-dessus. Mais ce sera les démences, ce sera les personnes Alzheimer et finalement tous ceux qui encombrent. Voilà le modèle de civilisation que nous offre à la fois le tribunal administratif de Châlons, le Conseil d'État, une certaine médecine. Mais heureusement, il y a des gens pour l'enrayer, il y a des instances internationales pour l'enrayer, il y a des médecins merveilleux pour l'enrayer. Mais je voulais également terminer sur un point pour vous dire que malheureusement, nous sommes tombés encore plus bas que ce qu'imaginent nos auditeurs. Parce que le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme ont validé une mort abominable. La mort de la petite Inès Afiri, au mois de janvier 2018. Voilà une enfant qui a 14 ans, qui fait un arrêt cardiaque, anoxie cérébrale, qui se retrouve en état végétatif, j'ai pas tous les éléments médicaux. Elle a un respirateur artificiel. Elle est peut-être en situation d'obstination déraisonnable, d'acharnement thérapeutique, je n'en sais rien, je ne connais pas le fond du dossier. Mais la question n'est pas là, ici. Et ses parents se battent devant les tribunaux jusqu'à la Cour européenne parce qu'ils ne veulent pas qu'on arrête le respirateur artificiel de leur fille. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort sur un plan médical, mais ce sont leurs parents, ce sont ses parents. Et ses parents qui, de droit naturel et de droit civil, puisque c'est dans le code civil, sont ceux qui doivent représenter leur enfant, qui ont l'autorité parentale et qui doivent prendre les décisions. Simplement, Monsieur Leonetti et les décrets d'application des gouvernements successifs qui ont été pris en application de la loi Leonetti, on a décidé autrement, puisque dans le cadre de la procédure collégiale, quand une personne ne peut pas s'exprimer, si c'est un mineur, le médecin qui va décider si le mineur doit mourir ou doit vivre demande simplement non pas l'autorisation des parents, mais leur avis. Et cette abomination législative, qui est en réalité l'abomination d'un simple décret réglementaire qui est donc inférieur à la loi, a été validée par le Conseil d'État. Alors que cela heurte frontalement le droit naturel, mais également le droit civil, puisque l'autorité parentale est dans le code civil. La Cour européenne des droits de l'homme a validé cette infamie. C'est-à-dire que le Conseil d'État a dit non, il n'y a pas d'illégalité pour à dire que c'est le médecin qui décide que l'enfant mourra et que les parents, si leur avis est particulièrement important, leur avis n'est pas décisionnaire, ce n'est pas eux qui prennent la décision. Et dans cette décision, Inès Zaffiri, le Conseil d'État, sous la présidence encore de Bernard Stiern, qui n'était pas parti à la retraite, a écrit « Il appartiendra au médecin de décider si et quand il arrêtera. »
C'est le droit de vie et de mort donné par le maire au médecin. Oui, oui.
Absolument. Et aujourd'hui, devant la justice, eh bien, nous en sommes réduits à devoir demander des permis de vie. Quel drôle de civilisation. C'est ça le droit qu'on nous propose aujourd'hui. C'est ça la justice qu'on nous propose aujourd'hui. Et selon le propos, encore une fois, de Jean-Denis Combrexel, il paraît que cela s'appelle la justice des hommes. Elle n'est pas bien belle.
Eh bien, merci bien, Jérôme, de toutes ces explications. Ça nous met du baume au cœur, en fait, pratiquement. Moi, ça m'a fait fort plaisir. Et je crois que tu mérites vraiment que l'on te salue avec mes invités pour ce travail extraordinaire. Alors, courage. Et puis, mille merci. Merci pour Vincent Lambert. Et puis, merci pour tous ceux qui s'inquiétaient pour lui. Et merci pour sa famille. Voilà, merci.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui prennent de ces nouvelles régulièrement. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir pu vous donner ces nouvelles aussi rapidement parce que je sais combien les auditeurs sont attentifs à la situation de Vincent et de sa famille. Merci.
Bon dimanche.
Merci, bon dimanche à tous.
Bien. Chers amis, ben c'est, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles, évidemment. Ça nous a pris de... Je veux dire, un peu de notre temps, mais ça en valait la peine, n'est-ce pas? Je pense que...
Mais je pense que il est frappant de... Nous allons parler de l'Église.
Et, alors, c'est Maxence Eckart qui parle.
C'est Maxence Eckart qui parle, mais je suis frappé qu'on en parle après le cas de Vincent Lambert, puisque comment ne pas faire un parallèle entre sa situation si douloureuse et où il ne peut pas s'exprimer et la situation actuelle de l'Église?
Ah oui, alors on va peut-être commencer par ça justement, la situation de l'Église. Alors j'ai lu tout votre ouvrage qui s'appelle « La crise de l'autorité dans l'Église, les papes de Vatican II sont-ils légitimes ?» Bon.
Chez Pierre-Guillaume de Roux.
Chez de Roux, oui. Alors, alors, il faudrait presque reprendre chaque page et discuter chaque page. Et puis, notre ami Dominique Tasso est théologien, n'est-ce pas?
Non, pas du tout.
Non, vous n'aviez pas quelques diplômes de théologie,
non,
philosophie?
Absolument pas. Et je pense que l'intérêt, ce qui fait l'intérêt du livre de Maxence Eckart, que j'ai lu de la première à la dernière page, c'est que justement, alors effectivement, il traite de théologie, mais il ne traite pas que de théologie. Mais il en traite comme un laïc peut en traiter. Parce que le problème de la théologie, c'est que c'est un peu comme beaucoup de disciplines scientifiques. C'est parfois un petit peu le domaine des spécialistes qui ont leur vocabulaire et qui entendent rester entre eux. Alors que, évidemment, dans le cadre de la théologie, ça nous concerne tous, ça concerne tous les croyants. Et ce qui est agréable en lisant ce livre, c'est que justement, les questions théologiques sont abordées, mais dans un vocabulaire tout à fait ordinaire. Donc, c'est le discours d'une personne intelligente qui réfléchit.
Ah, bravo.
comme tout le monde peut réfléchir sans avoir fait des années d'études de théologie. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a le mot légitimité dans le titre. Et ça, ça me permet. C'est une question fondamentale. C'est pas une question. Alors, effectivement, ça concerne l'Église, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise de la légitimité dans toute la société. Car d'une certaine façon, ouais. Les gilets jaunes, c'est le signe d'une crise de légitimité. Donc, cette notion. Et alors, justement, comment est-ce que vous définissez la légitimité?
Bien, en fait, moi, je pose la question, est-ce que l'autorité des pontifes depuis Vatican II existent. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit considérer qu'ils sont les chefs de l'Église? C'est en cela que je parle de légitimité de ces pontifes. Et vous parliez du vocabulaire. Évidemment, le vocabulaire est clé. Mais en même temps, ce livre, je l'ai écrit d'abord pour moi,
pour faire le point sur cette question si importante lorsqu'on est catholique, de savoir à qui on doit obéir. Et je pense que cette question de l'autorité dans l'Église a en fait été très embrouillée depuis plusieurs décennies. Alors qu'en fait, nous avons la doctrine de l'Église nous donne beaucoup d'instruments pour répondre à la question que je pose de façon assez simple, mais comme la solution que je crois juste est assez douloureuse en soi, eh bien, on constate que les théologiens, depuis presque 40 ans maintenant, ont embrouillé cette question.
Depuis le Concile.
Depuis le Concile, et surtout depuis la réaction au Concile. C'est-à-dire, c'est arrivé presque 10 ans après le Concile qu'on voit les premiers écrits sur cette question.
Alors justement, en ce moment, il vient de sortir une lettre collective.
Absolument.
Il y a quelques jours.
Absolument.
Je ne l'ai lu que assez rapidement. J'ai remarqué que dans les signataires, il y avait effectivement des clercs, mais il y avait également des laïcs.
Absolument.
Et des laïcs qui ne sont pas forcément des théologiens de profession. J'ai repéré en particulier Stéphane Mercier, qui est un philosophe qui était à l'université Louvain et qui a justement été jugé indésirable dans cette université parce qu'il défendait la doctrine catholique sur l'avortement, en particulier. Bon. Alors, justement, est-ce que cette lettre ouverte n'est pas quelque chose qui va tout à fait dans le sens de
Alors,
ce que vous dites dans votre livre?
Pour vous répondre, je crois que le contexte a un petit peu changé depuis l'avènement du pape François, puisque le pape François a pris des positions
radicalement opposées à celles de l'Église.
Radicalement opposées à celles de l'Église dans plusieurs domaines, non seulement dans le domaine dogmatique, puisqu'il a en quelque sorte réhabilité Luther, mais également dans le domaine moral. Et tout récemment, il y a quelques semaines, vous savez qu'il a déclaré à Abu Dhabi que l'islam était une religion voulue par Dieu. Alors, ces positions si extrêmes ont provoqué de très nombreuses réactions dans l'ensemble des chrétiens, je dirais, enfin des catholiques, et pas seulement dans les mouvements traditionnaliste, mais également dans l'Église officielle.
Eh ben, excusez-moi, Maxence Eckart, mais vous le sentez comme ça? Vous voulez dire que moi j'ai l'impression que le peuple de Dieu, comme on disait après le Concile, voit ça très loin, quitte à dire, mais de toute façon, si le pape l'a dit, c'est que c'est bien.
Alors, non, moi je crois vraiment qu'il y a une réaction qui est tout à fait nouvelle, et je vais essayer de vous le prouver. Et en tout cas, moi, mon livre, j'ai beaucoup de retours de gens qui ne sont pas traditionalistes, je dirais, qui ne sont pas dans l'opposition et qui disent « mais ce que vous écrivez est important, est intéressant ». Et je sais que mon livre est lu au Vatican lui-même, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, vous avez parlé de cette déclaration d'un certain nombre d'intellectuels, théologiens, clercs, religieux, mais également laïcs. Mais avant cela, nous avons eu la déclaration de Mgr Athanasius Schneider, il y a quelques semaines, qui dit grosso modo la même chose. Et que disent ces documents? Eh bien, ils disent quelque chose d'inouï. Ils disent « François énonce des hérésies ».
Absolument.
Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, car...
Oui, on a oublié le Bobineau, là, avec Jérôme Triomphe.
Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie, dirigé par le docteur Jean-Pierre Diques, assisté de Dominique Tassot et de Bernadette. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Maxence Eckart pour son livre « La crise de l'autorité dans l'Église » et Monsieur Laurent Glosy, écrivain et éditeur. Nous avons entendu Maître Jérôme Triomphe pour des nouvelles de Vincent Lambert.
Alors, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Non, je vous en prie. Et donc, ce qui est quand même très nouveau, c'est que Mgr Athanasius Schneider, le supérieur général de la fraternité Saint-Pie-X, l'abbé Pagliarani, aujourd'hui, tous ces intellectuels écrivent dans des documents publics auquel il donne le maximum de retentissement, le pape François est hérétique. Alors, auparavant, dans l'histoire de l'Église depuis Vatican II, il y a eu des déclarations sur l'hérésie des papes de Vatican II. Mais ces déclarations étaient faites, donc Mgr Lefebvre en a un petit peu parlé, les autres évêques de la Fraternité Saint-Pie-X l'ont dit, mais c'était toujours en passant, jamais de façon aussi formelle, aussi solennelle, si vous voulez. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de nouveau, et qui est évidemment, de mon point de vue, extrêmement important dans l'histoire de l'Église.
Alors, il y a quand même un paradoxe qui apparaît, c'est que jusqu'en 1870, on pouvait assez généralement faire confiance dans les documents issus de Rome. Et j'avais lu ça il y a très longtemps, dans un recueil de prophéties écrit par un Français, mais qui vivait en Australie. Et il faisait cette remarque, il était, ce qui est absolument nouveau dans l'Église aujourd'hui, et je pense que ça, c'est ça le fond de la crise, on parle beaucoup de crise de l'Église, bon, mais le fond de la crise, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance dans un document parce qu'il est romain. Mais ça ne suffit pas.
Alors, mais c'est
quand
même,
c'est vraiment nouveau.
Oui, mais alors c'est quand même très inquiétant parce que il y arrivera un moment où le catholique de base va se dire, mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que c'est cette Église-là ?
Voilà.
Si vous rajoutez la,
en
ajoutant l'affaire des abus sexuels, le troupeau est en train de se disperser avec une très grande vitesse.
Et c'est pourquoi beaucoup perdent la foi.
Mais c'est pour ça que votre livre est très important, c'est parce qu'il, en montrant que cette crise a été annoncée, on comprend qu'elle a un sens et qu'elle va se terminer. Donc c'est un message d'espoir considérable,
absolument.
Alors que beaucoup de gens aujourd'hui sont éberlués devant ce qui... Si, évidemment, quelqu'un qui analyserait l'Église comme un sociologue, en conclurait inévitablement qu'elle est, elle est en train de se... à l'agonie, pratiquement.
Absolument.
Elle est en train de se débattre dans des...
Laurent Glosi, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient de dire ?
Il y a un parallèle, effectivement, aussi avec l'intervention de Jérôme Triomphe, c'est-à-dire une société que je décris dans mes livres comme une société satanique, une société maçonne, où l'Antéchrist doit arriver. Et l'Église, en fait, aujourd'hui, on ne veut pas la tuer. C'est-à-dire qu'on va la critiquer, les médias de masse vont critiquer l'Église pour lui arracher tout crédit. Mais on garde la structure parce que cette église de Vatican II est une église mondialiste. Donc elle doit servir au plan satanique de l'Antéchrist. Et nous sommes en plein dans les déclarations de Notre-Dame à la Salette, où Rome sera le siège de l'Antéchrist. Les prêtres feront perdre la foi. Nous sommes en plein là-dedans.
Maxence Eckart.
Peut-être avant de venir aux prophéties sur la crise de l'Église très affreuse que nous vivons, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dominique Tasso. Effectivement, nous sommes dans une situation impossible, puisque en 1870, le pape Pie IX et le Concile Vatican I ont proclamé un dogme qui est le dogme de l'infaillibilité pontificale, et dans un texte qui est extrêmement clair, de Pastor Eternus, où l'on dit en toute simplicité, le souverain pontife, lorsqu'il parle de la foi ou des mœurs en tant que successeur de Pierre, ne peut pas se tromper. Et
on est coincé.
Et alors, qu'est-ce que ça signifie, cela ? Je crois qu'il faut revenir un petit peu à l'origine de ça. C'est très important de le comprendre. Notre Seigneur, de façon très étonnante en réalité, a décidé de faire reposer l'Église entière sur un homme en chair et en os, Pierre et ses successeurs, le pape. Et c'est donc l'Église qui repose sur le pape. Ce n'est pas le pape qui est la tête de l'Église. Pierre est le fondement, il n'est pas le sommet.
Tu es Pierre sur cette vie,
voilà.
Père. Pierre,
et,
je bâtirai mon Église.
Exactement. Et donc, dans Saint-Luc, notre Seigneur dit « Lorsque tu seras revenu, confirme tes frères. Cela signifie que le mode de fonctionnement de l'Église, que le Christ a voulu pour son Église, la constitution de l'Église est divine, elle est voulue par le Christ, consiste à ce que sur les questions de foi, et pas que de foi, sur les questions de mœurs également, et c'est très important, car les questions controversées aujourd'hui touchent encore plus souvent les mœurs. Quand je parle des mœurs, c'est pas uniquement la morale familiale ou individuelle, mais par exemple les relations avec les autres religions, ce sont des questions de mœurs, voyez. Eh bien, le pape est infaillible, il ne peut pas se tromper. Pourquoi ne peut-il pas se tromper? Parce que, à toutes les pages de la Bible, on nous explique qu'il faut adhérer à la foi en Dieu pour se sauver. Si donc le pape pouvait se tromper, la foi serait viciée et on ne pourrait plus se sauver. C'est donc une question de salut. Et donc, le danger le plus profond qui peut atteindre l'Église, c'est l'erreur. Et l'erreur en matière de foi, ça s'appelle l'hérésie. Vous voyez ? Et donc, c'est la raison pour laquelle tous les décrets des papes depuis toujours, tous les canons du code de droit canonique, leur objectif principal est d'empêcher l'hérésie. Vous voyez ? Et donc, revenons-en à la situation actuelle. Comment est-il possible qu'un pape dise des choses qui sont l'inverse de ce que ses prédécesseurs ont défini? C'est quelque chose qui est impossible, puisque nous savons qu'il
oui,
est
mais impossible. C'est impossible, sauf qu'on le sait quand même. C'est ce qui s'y se passe.
Et c'est à cette question que j'ai tenté de répondre dans mon livre. Car en fait, ça n'est pas nouveau, si vous voulez. Le Concile Vatican II lui-même dit l'inverse de ce que les pontifes précédents avaient défini. Et donc la question s'est posée. Et les théologiens ont apporté diverses réponses. Et ce sont ces réponses que j'examine, que je pèse, et pour risquer une solution qui est la mienne, sur laquelle je vais revenir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis 40 ans, il y a eu grosso modo trois solutions qui ont été données. Les premiers, et c'est un petit peu beaucoup de milieux traditionnalistes, disent « Ah mais le pape n'est pas infaillible dans tout ce qu'il fait. Il y a des conditions très spécifiques. Il n'est infaillible que lorsqu'il parle dans certaines conditions, avec certaines formules.
Je pensais que le pape n'était infaillible que dans le cadre des encycliques.
Alors, oui, mais il peut être infaillible dans les encycliques
mais
quand il définit.
Mais pas nécessairement. Bah,
il est toujours infaillible lorsqu'il définit. La règle, et qui d'ailleurs ne date pas de Vatican I, hein, puisqu'il faut savoir que ça a été la doctrine de... Mais qui a été définie à Vatican I, c'est le pape est infaillible lorsqu'il définit quelque chose en matière de foi et de mœurs. En réalité, il n'y a aucune formule obligatoire. Il n'y a aucune condition de document. C'est-à-dire, il n'y a pas les bulles, c'est infaillible, les encycliques, c'est pas infaillible. Ça peut être dans n'importe quel document. Il faut simplement que le pape marque sa volonté de trancher une question. Et par exemple, vous citez le cas des encycliques. Aujourd'hui, la plupart des catholiques pensent que les encycliques, c'est une sorte de lettre un peu informelle, et donc que le pape s'y exprime comme ça, mais c'est pas ex cathedra. Mais Pie XII nous dit l'inverse. Pie XII, au contraire, explique que les encycliques, lorsque le pape se prononce sur une question dans une encyclique, il est infaillible de la même manière que lorsque il énonce dans un concile écuménique des canons dogmatiques.
Oui, mais alors ça suppose évidemment qu'il est défini selon qui allait parler, et très souvent, le point faible de tous ces documents, c'est qu'on ne les définit pas. C'est un peu, enfin, par analogie, je dirais, dans la question de la théorie de l'évolution, etc., les gens en parlent volontiers, mais jamais on ne définit ce que c'est. Et justement, quand on regarde les vieilles, le Denzinger, enfin les vieilles décisions de théologie, il y a toujours la définition. Donc on sait de quoi on parle, et c'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup de textes théologiques où il n'y a pas à proprement parler la définition précise de ce dont on parle.
En fait, ce à quoi vous faites allusion, si je ne me trompe, c'est que vous dites souvent... les souverains pontifes définissent les choses dans des formules courtes, très précises,
voilà,
qui ont été pesées par des théologiens retouchés, recousus. Et une fois qu'on a le bon texte, eh bien, on met tout l'anneau du pêcheur dessus, la bulle, et ça. Mais je crois que c'est pas tout à fait cela la réalité. La réalité, c'est le pape n'a aucune condition de forme. Et tous les textes de Vatican II, par exemple, sont, il y a des définitions dans Vatican II. Et pourtant, et Jean XXIII et Paul VI ont déclaré, il n'y a pas de canon à Vatican II. Il n'y a pas de définition solennelle comme celle que vous évoquez. Et c'est vrai. Lorsqu'on lit les textes de Vatican II, on ne trouve pas de formule courte et précise.
Alors,
c'est
attendez,
pas pour ça qu'il n'y a pas de définition.
Oui, je vous interromps rapidement. Bernadette va nous lire les questions.
Pour Maxence Écart, Maxence oublie que le Concile Vatican Ier a fixé quatre conditions pour que le pape soit infaillible. Et ces quatre conditions, Bergoglio ne les remplit jamais. Il n'est donc pas infaillible.
Ah, c'est intéressant ça.
Alors, je n'oublie pas du tout les conditions de Vatican I, mais je crois que cet auditeur se trompe, car quelles sont les conditions? Les conditions, c'est qu'il parle en tant que successeur de Pierre, qu'il parle d'une question de foi et de mœurs, et qu'il tranche une question. Voilà les conditions. Eh bien, tant Vatican II que beaucoup de choses que les papes de Vatican II ont définies, et plus encore le pape François, lorsqu'il parle dans Amoris Laetitia, et qu'il explique qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui vivrait dans une situation matrimoniale irrégulière vivrait forcément dans le péché, il tranche la question.
Oui, mais il tranche en disant que c'est un autre de trancher. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il...
Oui, mais il ouvre une possibilité théorique. Et cela même est une définition. Et d'ailleurs, ça a provoqué immédiatement des polémiques. Vous savez, il y a eu les doubias des cardinaux. Il y a eu un texte d'un évêque de Buenos Aires, je crois, ou de Cordoba en Argentine, qui donnait l'interprétation d'Amoris Laetitia. Et le pape François a déclaré solennellement, avec tout un appareil engageant son autorité, que l'interprétation de l'évêque de Buenos Aires était la bonne interprétation. Alors, et donc consistait à admettre au sacrement les divorcés.
Je vous interromps. Oui, voilà, donc ça, l'affaire était réglée. Donc
l'affaire était réglée.
On était dans l'hérésie pure et simple. Alors, il y a rapidement, on va simplement les lire sans s'engager dans une discussion.
Les justes sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Il serait bon de laisser mourir Vincent. A-t-il demandé de vivre ? Rachel Lambert et ses neveux veulent sa mort. À quoi bon le préserver inutilement?
Oui, et à quoi bon le faire souffrir inutilement pour mourir? Bon. Ouais. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cet auditeur-là, parce que ça va dans le sens inverse de notre travail de médecin, qui consiste à préserver la vie comme elle est, et on est bien placé pour savoir qu'un handicapé, quelle qu'en soit la nature, c'est un être vivant, il a le cœur qui bat, il respire, il s'alimente normalement, ça n'est pas une gigantesque culture de tissu vivant. Bon, alors nous allons quand même essayer d'avancer, parce que le temps passe vite. Ce que je voudrais, c'est que nous parlions quand même des conséquences que ça peut avoir, on peut se demander si on n'est pas arrivé au dernier temps de l'Église. Et on a plus beaucoup de temps pour parler de ça. Et vous vous appuyez, bien sûr, sur un certain nombre de personnes et même l'Évangile. Jésus qui dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Il y a une série de citations, le prophète Daniel qui est tout à fait classique, qui est repris par saint Matthieu, qui annonce un déclin de l'Église à un moment de son histoire. Et on peut se demander si ce moment n'est pas venu actuellement. C'est ça la question.
Absolument.
Vous référez à l'Apocalypse.
Absolument.
Je voudrais quand même vous dire, j'ai eu un professeur au séminaire qui s'appelait le père Tamisier. Et il n'était pas du tout gauchiste. C'est le dernier à avoir porté au séminaire Saint-Sulpice la soutane. Et en 66, c'était tout de suite la fin du concile. Et l'année suivante, il il a été viré. Et il a été viré parce qu'il était thomiste, tout simplement. Et quelqu'un m'a envoyé une photo. Cet homme était complètement déstabilisé et il passait son temps à aller à la pêche parce qu'il savait pas quoi faire d'autre, alors que c'était un homme qui connaissait 5 langues anciennes et qui avait fait une traduction complète de la Bible qui était parue dans différents livres que l'on retrouve toujours sur Internet d'occasion. Alors il avait fait un livre, un très beau livre, vous voyez, il y a une impression dite à la balance, c'est-à-dire que c'est une... ce qui retient votre thèse, c'est le fameux chapitre 13. Alors, excusez-moi de citer cela, mais le chiffre 13 chez les francs-maçons a une importance fondamentale. Et les francs-maçons s'interrogent eux-mêmes sur ce chiffre 13 et sur ce qui est dit, c'est la fameuse bête de la mer et la fameuse bête de la terre. Alors simplement, je voudrais quand même dire, à titre informatif, que le père Tamisier disait que l'Apocalypse était un genre littéraire qui avait fleuri à son époque et aussi un petit peu près avant, et il faut pas le prendre à la lettre, c'est-à-dire si on parle par exemple d'un ange qui a une trompette et qui s'ouvre dans la trompette, eh bien ça veut dire la parole de Dieu, ça veut pas dire un ange avec ses ailes, vous voyez, et les couleurs ont aussi un sens, donc c'est un genre littéraire. Et de fait, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Et à propos...
Pardon de vous interrompre, oui. Docteur, mais je crois qu'on ne peut pas faire dire ce que l'on veut à l'Apocalypse.
Non, mais non, les gens ont essayé de faire dire. Alors,
même cela n'est pas exact, à mon avis.
À ce qui concerne justement la bête, eh bien, voilà le commentaire qu'il écrit. Il fait toujours des rapprochements avec les textes de l'Évangile. Il écrit ceci. Satan est servi par deux agents redoutables. Et ça, je crois que nous sommes d'accord, Laurent Glosi, là-dessus. C'est la bête de la mer et la bête de la terre. Qui parodie les deux témoins, Jean les décrit comme étant des bêtes à la manière de Daniel. Ça, vous êtes d'accord. Mais alors, ce qui dit, la première bête vient de la mer, donc de l'Occident, par rapport à Patmos, parce qu'il était réfugié à Patmos. Saint Pierre et Saint Paul avaient été déjà martyrisés à cette époque-là. Alors, c'est la puissance politique totalitaire et persécutrice qui agira jusqu'à la fin des temps, malgré des blessures momentanées, qui cherchera toujours à se faire adorer. Donc, il parle des persécutions de Néron, qu'il dénonce, tout en disant, ben voilà, ça, les deux bêtes de la mer, c'est Satan. Mais ça veut pas dire automatiquement que les deux bêtes de la mer, si, ce sont elles qui arrivent à la situation où on est. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous en parlez pas mal de ça.
Alors, j'en
parle
beaucoup.
Vous l'appelez la bête de l'abîme.
Voilà, c'est ça. C'est même un tiers de l'ouvrage. Car, en réalité, et c'est le livre de Saint Matthieu, hein, l'évangile de Saint Matthieu, où notre Seigneur nous dit « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, vue par le prophète Daniel, sachez que les temps seront proches. » Cela signifie donc que notre Seigneur nous demande d'aller lire le prophète Daniel. C'est une instruction qu'il nous donne. Et évidemment, lorsque le Christ a prononcé ces paroles, eh bien, l'Apocalypse n'était pas écrite. Et pourtant, les pères de l'Église ont abondamment commenté l'Apocalypse, et à chaque fois, ils la commentent avec le livre de Daniel. C'est-à-dire que le livre de Daniel est en quelque sorte l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et donc, nous avons de très nombreux écrits des pères qui commentent à la fois les livres de Daniel et en même temps l'Apocalypse. Or, ces prophéties de Daniel, qui sont peu connues en fait du grand public, sont très intéressantes. Il y en a 4 ou 5, en réalité, selon qu'on les sépare en deux ou pas. Mais toutes se terminent sur la dispersion du peuple saint. et sur l'abomination de la désolation dans le temple. Le peuple saint, c'est l'Église, bien évidemment. Et donc, toutes ces prophéties disent la même chose. L'Église va chuter.
Oui,
à la fin des temps.
Tout le monde le croit. Oui.
Alors, sauf que c'est pas du tout. Oui. Vous voyez, moi, j'ai découvert ça assez récemment, en réalité, parce que lorsqu'on apprend le catéchisme, tout ça, on vous dit l'Église est une institution éternelle. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est dans l'Évangile. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, alors certes, on dit il y a eu une crise dans l'Église, mais il y en a eu d'autres. Dans l'histoire de l'Église. Or là, on parle d'autre chose. On parle de l'abomination de la désolation dans le lieu saint, et c'est quelque chose d'exceptionnel, comme on n'en a pas vu dans l'histoire. Voyez, et saint Paul parle du mystère d'iniquité, de l'apostasie générale. Alors en fait, toutes les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse se recoupent et disent la même chose.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
Et pour voir ce qu'elles disent, eh bien, il faut lire les pères de l'Église et les exégètes du Moyen-Âge, et toutes disent qu'à la fin des temps, on sera confronté à une fausse Église, à un faux clergé, qui donnera des faux sacrements et qui détournera les saints de la voie de Dieu. Et on ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec ce que nous vivons.
Alors, de fait, il faut admettre que Satan est derrière tout cela, et c'est le travail que fait notre ami Laurent Glosi par sa maison d'édition, par ses livres qu'il a écrits par lui-même. Alors, vous avez bien écrit vous-même une bonne dizaine d'ouvrages où vous essayez de nous faire comprendre ce qu'est le satanisme actuellement dans le monde actuel, par quoi il se révèle et comment. Alors, je vous laisse parler.
Oui, plusieurs manifestations du satanisme, ou plusieurs, on va dire, observations. Hein. C'est-à-dire, il y a l'observation dans la société, hein, où la franc-maçonnerie joue un rôle de premier plan, et ça, il faut le dire, la franc-maçonnerie est satanique. Il faut reprendre les déclarations de Pike, qu'il écrit noir sur blanc en 1871 dans Morale Saint Dogma. Il dit que le secret de la franc-maçonnerie, c'est l'adoration, entre guillemets, donc l'adoration de Satan. Ce qui est confirmé 100 ans avant par, je dirais, Weishaupt aussi, dans le Testament.
Oui, qui est le fondateur des Illuminati.
Tout à fait.
Il faut peut-être préciser pour les auditeurs que Pike était un franc-maçon.
De 33e degré.
Oui, mais ils l'ont choisi.
Oui, mais ils le sont tous.
Ils le sont tous.
Donc, Weishaupt écrit la même chose. Il décrit la société future que la franc-maçonnerie doit mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on retrouve dans le manifeste du Parti communiste de Marx. Hein, lorsqu'on prend le manifeste du Parti communiste et qu'on prend les écrits de Weishaupt, hein, qu'on en superpose, on voit que c'est un copier-coller, ni plus ni moins. Et puis, bon, ce rôle du satanisme dans la franc-maçonnerie, confirmé aussi par des revues maçonniques comme la Revista de la Maçonneria. Enfin, bon, on n'en finirait pas. Hein. La franc-maçonnerie est réellement, quelles que soient les loges, satanique. Ensuite, il y a, d'un point de vue théologique, alors ça, c'est le dernier travail que j'ai fourni. Si on prend toutes les hérésies, celles des albigeois ou des cathares, par exemple, et ça m'est assez cher au cœur parce que je suis du sud de la France, eh bien, on remarque, là encore une fois, que l'hérésie des cathares, qui ne faiblissait pas pour assassiner des catholiques, puisqu'on retrouve dans l'Aude ou ailleurs des charniers de catholiques, ça je le précise parce que...
C'est-à-dire qu'on présente les cathares comme des gens
je tiens à le préciser
gentils,
parce que,
voilà. Qui étaient persécutés.
Et ce n'est pas du tout le cas, et heureusement qu'on a eu Simon Grignon de Montfort hein, pour mettre fin au deuxième siècle
hein.
à ces cathares qui, dans leurs hérésies, considéraient effectivement que... enfin, l'homme naissant, naissant du mal ou des choses comme ça, donc faisait la promotion du suicide et passait au fil de l'épée tout ce qui était catholique. Il y a même dans l'Aude, comme ça, ou dans l'Ariège, des charniers de catholiques. Les protestants ont fait la même chose aussi en 1567 avec la Michelade, hein, ce qu'on appelle l'anime la Michelade, parce que des catholiques ont été assassinés, des prêtres ont été égorgés sur les autels, ont donné les hosties aux chiens, etc., etc. C'était les protestants qui faisaient cela, la nuit de la Saint-Michel. Hein, donc ça, c'est assez important de le rappeler, parce qu'on parle de l'islam aujourd'hui, à juste titre, bien entendu. Mais les protestants ont fait pire. Ils ont fait pire, tout simplement, parce que le protestantisme, une fois de plus, il s'agit de lire Luther, hein, dans un livre dont le titre en vieil allemand est « Die Lügen und die Juden », qui veut dire les mensonges et les juifs. On comprend très bien l'origine du protestantisme. Et il suffit aussi de comprendre qu'un protestant est la moitié d'un franc-maçon pour bien voir là aussi que ces hérésies prennent leur creuset. C'est ce que dit le père Mainviel. Jules Mainviel dit « Tout ce qui n'est pas tout à fait. Tout ce qui n'est pas catholique est gnostique. »
Alors,
ces questions d'Albigeois, de Cathares, etc., ne sont pas que des questions historiques, puisque aujourd'hui.
Tout à fait.
Alors, les particularités des Albigeois, évidemment, c'est qu'ils considéraient comme méprisable tout ce qui était matériel, tout ce qui. Et une chose qui m'a frappé, je viens de lire une biographie du Père Joseph. Alors, vous savez, Père Joseph, c'était le franciscain diplomate qui était l'éminence grise de Richelieu. Donc Richelieu, les Albigeois, ce sont c'est tout à fait des éléments contemporains. Et alors, ce que je remarquais, c'est que comment, au fond, la paix est-elle revenue, la paix religieuse est-elle revenue en France, c'est en particulier grâce aux franciscains, parce que le Père Joseph était lui-même franciscain, et c'est le mode de vie. La pauvreté franciscaine, les missionnaires franciscains envoyés dans les zones albigeoises, qui ont petit à petit ramené les populations. Donc il y a la question dans la crise de l'Église, qui est un petit peu le sujet aujourd'hui. Bon, il y a le problème des hommes d'Église, des abus des hommes d'Église ou du comportement des hommes d'Église qui détournent les gens de la foi. Et puis ce qui est sympathique de voir, c'est que la paix est revenue en particulier dans certaines parties du Massif central et autres, grâce à la qualité de vie des franciscains.
Il y avait les dominicains aussi.
Dominicains, c'était par la parole, par les arguments intellectuels, leur vocation. Mais l'éthique de vie, c'est également très important.
Vous écoutez le Libre Journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie, dirigé par Jean-Pierre Diques, assisté de Dominique Tasso et de Bernadette. Nous recevons aujourd'hui M. Maxence Écart pour son livre « La crise de l'autorité dans l'Église » et M. Laurent Glosi, écrivain et éditeur.
Alors Laurent Glosi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le satanisme, quand j'étais enfant, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, et que nous en sommes arrivés à maintenant un satanisme très visible, je dirais d'une forme ésotérique à exotérique, si je puis utiliser ce néologisme. Oui. J'en prends par exemple un exemple qui est l'inauguration du Saint-Gothard, qui était une cérémonie satanique plus, ont assisté un certain nombre de chefs de l'État, et ils n'ont rien dit. Je veux dire, il n'y en a pas un qui a dit « mais ça va pas, non ?»
Oui, alors, il y a une personne que je prends en note lorsque je dois illustrer ce mouvement, ce changement, cette modification. C'est une universitaire italienne qui est décédée. On dit qu'elle s'est suicidée, bon, c'est toujours pareil. On peut pas savoir. Mais dans les faits, il s'agit d'une universitaire italienne qui n'a pas été traduite en français, qui est passée lors d'une émission, c'est dans les années 2000, une émission italienne sur l'Enigma. Il s'agit de Cecilia Gatto-Trocchi, T-R-O-C-H-I, et c'est une anthropologue. Et elle donne une phrase, alors les gens dans l'assistance sont assez médusés. Elle donne une phrase, elle dit comme ça, « Nous sommes passés d'une logique communiste et matérialiste à une logique ésotérique et sataniste. » Non, je répète, « Nous sommes passés d'une logique matérialiste et communiste à une logique sataniste et maçonnique. »
Oui, c'est-à-dire que ça, la réponse à ma question, c'est de dire que effectivement, maintenant, le satanisme devient quasiment public dans un certain nombre de pays.
Il a été préparé par le communisme, comme et ça, Monsieur Tasso le sait aussi bien que moi, comme le communisme a été préparé en Chine 40 ans avant par le darwinisme, hein, parce qu'on prépare les esprits, et on remarque que le communisme fait sa mutation. Alors, bien entendu, hein, pour la victoire du satanisme, il faut qu'il y ait, d'une certaine manière, une approbation du peuple. Du peuple, c'est-à-dire des gens qui, d'une manière consciente, savent qu'ils ont affaire à Satan.
Ou des représentants du peuple, à titre anecdotique.
Ou même le peuple lui-même.
Voilà, je voulais signaler que l'Église satanique aux États-Unis... à pignon sur rue, oui. Les dons qu'elle reçoit sont, donnent droit aux exonérations fiscales, comme ceux qu'on pourrait faire à d'autres organisations. Donc ça, c'est une preuve de visibilité.
Donc ce qui s'est passé au tunnel du Gothard, c'est ni plus ni moins, je dirais, d'une manière abrupte, ce qui se passe dans les loges, tout simplement.
Oui, mais enfin, je veux dire, là, il n'y avait pas de sacrifice d'enfants ou des choses comme
non,
ça.
Non, mais on voit des... Jean-Pierre, on ne peut pas le faire non plus à la
vue
de tout le monde. Oui. Mais quand même, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que le grand mage sataniste des temps modernes, Aleister Crowley, qui a exécuté plus de 100 enfants par an, ça c'est ce qu'il écrit... qui décède dans les années 40.
Oui, il a été chassé de pays en pays à cause de ça, d'ailleurs.
Et Mussolini l'a même chassé. Donc c'est pour dire que...
La France aussi.
Aleister Crowley était franc-maçon du 33e grade. C'est ce qu'il écrit dans Confession, un livre qui s'appelle Confession. Donc on voit bien, là aussi, si on fait des rapprochements, que le satanisme... Et la croyance, parce que je ne vais pas dire la religion, hein, et la croyance la plus élitiste et la plus secrète. On rejoint ce que dit un ancien représentant de l'Église de Satan, Bill Schnabelen, qui s'est converti au christianisme et qui, très clairement, déclare « Tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais... »
Tous les satanistes sont francs-maçons, oui. Moi, ça me semble... c'est tout à fait vraisemblable. Mais je veux dire, il y a tellement de groupes satanistes. Est-ce qu'on peut dire que, en dehors de la conscience collective, y a-t-il une hiérarchie sur le plan matériel entre tous ces groupes, le Bohemian Club, le Bilderberg.
Il y a un chef d'orchestre commun à tous ces gens-là, c'est la supra-maçonnerie. Et,
est-ce que c'est les Illuminati, par exemple?
Oui, bien entendu. Oui. Et là, il y a deux personnes tout à fait sérieuses qui parlent de cela. C'est Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel, enfin un des fils spirituels de Padre Pio, mais le plus représentatif, parce qu'il avait été placé par Padre Pio, donc, dans les années 50, au service de renseignement du Vatican, dont Luigi Villa, qui a fait l'objet au moins de 10 tentatives d'attentat, qui a dénoncé et qui devait lutter contre les infiltrations de la franc-maçonnerie dans le Vatican. Et il y a ensuite le livre « Pion sur l'échiquier », de cet ancien officier de la marine canadienne, Guicard. Les deux disent, écrivent, qu'il y a dans cette hiérarchie-là, mais principalement, il y a la franc-maçonnerie, il y a Lucifer lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier livre que j'ai traduit de Spirago, qui s'appelle « Le pouvoir de Satan », où je traite, donc c'est mon 15e livre, qui est une traduction, Spirago dit très clairement, Satan apparaît dans les loges maçonniques. ce n'est pas le seul.
Physiquement, quoi.
Physiquement.
Non, parce que moi, ce qui me frappe, on vient de sortir un cahier, Saint-Raphaël, c'est le hasard ou la providence qui vous mène ici. C'est que ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a une très, très grande cohérence entre ce qui nous est rapporté par les uns et par les autres, notamment, par exemple, au niveau de la manipulation mentale qui nous intéresse en tant que médecin, si je puis dire, le dédoublement des personnalités le Dr Jekyll and Mr Hyde, tout ça c'est très très cohérent, y compris ceux qui tout récemment ont écrit des ouvrages en disant bah oui, j'ai été franc-maçon, et ça il y en a pas mal de ça.
Oui. Oui, oui, tout à fait, bien entendu, beaucoup de gens témoignent effectivement de l'apparition, c'est Douanel, si je me souviens bien de ce nom, qui parle de cela, c'est un livre sur Lucifer démasqué, je crois que c'est ça le titre de mémoire, Lucifer démasqué, c'est un livre qui a 100 ans, et il parle comme ça des apparitions de Satan directement. Sous la forme de Spirago, lui, il parle d'un prêtre qui parlait de la. Enfin, qui prêchait sur la force de l'eau bénite, et bon, il s'est trouvé que. Ça, c'est dans le pouvoir de Satan. Hein. Il s'est trouvé qu'il a été invité dans une loge parce qu'un franc-maçon a voulu le mettre, entre guillemets, à l'essai. Et dans ce livre, donc, il parle de l'apparition de Satan sous la forme avec laquelle il est représenté dans les loges, c'est-à-dire comme celle du Baphomet.
Du Baphomet,
oui. De toute façon, il y a bien des anges, des bons anges qui apparaissent. Pourquoi
c'est sur la forme grossière qu'on se représente, oui, tout à fait. Oui.
Ne pourrait pas apparaître.
Et là, les témoignages sont pléthores, hein, il y en a beaucoup. Hein,
oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire.
Mais seulement le problème, c'est...
On n'est pas dans la spéculation intellectuelle.
Non. Je parle de gens qui sont des prêtres ou autres, qui écrivent là-dessus, qui ont vu. Donc c'est très clair. Le problème, c'est que dans la société actuelle, comme on a perdu tout le lien avec Dieu... Tout le lien avec la prière, les gens à l'heure actuelle, c'est là où on est dans une société de fous. L'abbé Laguérie, dans son catéchisme de Saint-Nicolas, dit « Qu'est-ce qu'un fou ? C'est quelqu'un qui ne pense pas à sa mort, qui ne pense pas à son devenir après la mort, en quelque sorte. » Et c'est là où notre société est complètement folle, c'est que les gens n'ont plus la conscience de ce qu'est croire, alors que dans l'Église catholique, faut-il le dire, nous avons 2000 ans d'Église, 2000 ans de saints, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en état de grâce avant leur mort, qui ont fait des miracles, puisque ce sont des saints, et qui parlent de la même manière. Autre cas, c'est un prêtre de Saint-Nicolas qui disait ça aussi, entre autres, les satanistes sont prêts à acheter plus de 5000 dollars un hostie consacré. Donc ils comprennent bien, les satanistes de haut niveau comprennent bien qui doit être blasphémé. Mais seulement dans cette société qui est complètement perdue, où il n'y a plus aucun repère. Les gens font de l'économie, font de tout, n'importe quoi, sauf du principal, parce que le principal, c'est de faire son salut. Parce que si on fait son salut, on a tout gagné pour l'éternité. Si on ne le fait pas, on a tout perdu pour l'éternité. Et ça, on l'a perdu de vue. C'est ça le problème. C'est pour ça que maintenant, les francs-maçons passent pour une école, on va dire, de philosophie, de choses comme ça, parce qu'il n'y a plus cette réalité en perspective.
Donc, vous parlez de visibilité du satanisme.
Dominique Tasso.
Ouais, une chose qui me frappe, c'est les phénomènes comme les rave parties ou le Hellfest. Excusez-moi pour l'anglais.
Ça veut dire la fête de l'enfer.
L'enfer. Bon, vous avez donc c'est un festival. Alors il y a les musiques rock, etc. Vous avez la drogue, etc. Et j'en parle en tant qu'ancien maire. C'est que normalement le maire est chargé de l'ordre public dans sa commune. Et je constate que pour ce genre d'activité, on oublie toutes les règles. C'est-à-dire que, autrement dit, il y a une sorte de double langage, et le, au lieu d'interdire, on autorise, au lieu de prévenir, on convoque même, alors là, c'est le préfet qui le fait, là, c'est plus le maire, mais on fait en sorte qu'il y ait les antennes médicales qui soient sur place, de façon à ce que les gens qui se shootent puissent être récupérés. Oui, c'est une administration qui défend la vie, docteur.
Oui, bien sûr, mais pour une bien mauvaise cause.
Mais c'est tuer et on les empêche.
C'est exactement ce qui se passe dans le rock. J'avais écrit un livre sur les Illuminati et Walt Disney. C'était un de mes premiers livres où je parlais des Beatles qui ne savaient absolument pas jouer de la musique. Et c'était un psychologue, Adorno, qui venait du Tavistock Institute, donc relié au MI6, etc. Et donc ça allait dans ce sens. Il disait que les groupes de rock étaient faits pour enlever le cerveau en quelque sorte aux jeunes. C'est ce que dit aussi. Vous savez, ce médecin qui écrivait à l'époque, qui avait écrit sur le cerveau reptilien. Il s'agissait du docteur Nguyen.
Qui a bien écrit là-dessus. C'était un ami. Il a fait une hémiplégie. Alors on lit les questions. Il nous reste plus que 4 minutes, c'est-à-dire très peu de temps, et il y a beaucoup d'annonces. Je pense que vous avez répondu à mes soucis. Oui.
Jean-Pierre, juste une
minutes.
Chose.
Oui.
C'est pour la dédicace que je dois absolument.
Oui, mais ben ça vous pouvez l'annoncer.
Donc je dédicace le samedi 25 après-midi à partir de 15h, 5 rue Bartholdi à la librairie française. Voilà, ça sera pour le dernier livre, entre autres.
Alors répétez, parce que
librairie française le 25 mai de 15h à 18h ou 18h30.
Et l'adresse
5 rue Bartholdi dans le 15e arrondissement, métro Duplex.
Voilà.
Alors. Voir la maçonnerie au travers des crimes sordides d'individus, c'est comme voir le catholicisme au travers de la pédophilie. La critique ne doit pas être excessive.
Oui, mais c'est très juste.
C'est juste. Alors, Maxence Écart ignore manifestement que l'une des 4 conditions est l'intention d'obliger, ce qui manque dans les déclarations scandaleuses de Bergoglio. Le discours de l'Église est bancal depuis qu'elle...
Trois minutes.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit cette auditeur.
Il faudrait encore une émission pour pouvoir répondre. Le discours de l'Église est bancal depuis qu'elle feint d'oublier qu'elle est censée combattre l'armée de Satan qui existe bel et bien.
Bien. Alors, nous arrivons aux annonces. Voilà.
Alors, une première annonce le 12 mai, hommage national à Sainte-Jeanne d'Arc. Rendez-vous à 12h, place Saint-Augustin, pour la messe. Un pique-nique au même endroit, sur la place, et avec des allocutions. À 15h, départ du défilé de la place Saint-Augustin. À 16h30, discours de clôture par l'abbé Beauvais et Alain Escada.
Alors ça, c'est à la place, c'est métro Saint-Augustin, n'est-ce pas ? Oui. En haut du boulevard Malesherbes, c'est ça.
Absolument. Hein,
oui.
Oui. Alors, 2 revues, le CEP, celle du mois de mars, elle traite de Teilhard, une réhabilitation impossible. Et je vous signale un article qui est très très intéressant, Regard sur la création, la bonté ou la générosité de Dieu. C'est un très bel article.
Alors, la revue est faite par,
Dominique Tasso.
Et réalisée par notre ami Tasso. Elle est très intéressante. Je lis toujours avec beaucoup de plaisir.
Si vous voulez vous abonner, il faut le faire. 16 rue d'Auxerre, à Bazarne, BAZARNES, 89 460.
Il faut répéter, je pense.
16 rue d'Auxerre, Bazarne, 89 460.
Ou sur le site du CEP. Hein.
Ou sur le site du CEP, bien sûr. Et
oui.
Le pèlerinage de Pentecôte, 8, 9 et 10 juin. Son thème, servir la chrétienté. Ainsi que le cahier Saint-Raphaël, 25 euros l'abonnement. 2 routes des Quiens, EQUIHEN, Saint-Étienne-aux-Monts, 62 360.
Alors c'est sur le satanisme, effectivement. Bien, je pense que nous sommes à l'heure. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir écoutés. Et puis je remercie bien sûr nos intervenants, Laurent Glosy. Maxence Eckhart, qui a toujours la même fougue. En fait, il faudrait repasser une...
Il faudrait une émission entière avec Maxence Eckhart.
Ça ne suffirait,
quand vous voulez.
Ça ne suffirait pas. Bon, Dominique Tassot et tous nos auditeurs, je souhaite un bon dimanche et que le bon Dieu vous bénisse tous.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Jean-Pierre Diques, assisté de Dominique Tassot et de Bernadette, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 5 mai 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.